Le dernier jour. Le désert de Roba et le Cali était déjà couvert de cadavres de toutes les nations, mais on continuait à se battre comme des damnés de l'enfer. Toutes les armes inimaginables risquaient d'y être employées afin d'exterminer son ennemi le plus rapidement possible. Mais qui était l'ennemi ou l'allié dans une guerre où seul un vainqueur deviendrait le maître du monde? En réalité, aucune nation ne voulait laisser sa voisine lui ravir l'occasion de contrôler la planète grâce à l'arme ultime qui devait logiquement se trouver au centre du champ de bataille. Jusqu'à présent, les armées se contentaient de se battre en corps à corps afin d'affaiblir les effectifs des autres. On s'observait en attendant de connaître exactement la force et la faiblesse de chaque nation guerrière. On devait s'assurer de pouvoir frapper le gros coup sans risquer ensuite la riposte de toutes ses voisines. Aucune armée ne se risquait à s'aventurer au centre du désert avant d'avoir obtenu la victoire sur ses compétiteurs. Ainsi, on tournait pratiquement en cercle, en se frappant ici et là, en comptant ses chances de faire un autre tour de cet étrange jeu de carrousel meurtrier sans perdre sa place comme nation existante. C'était vraiment horrible. Les armées chinoises, arabes, américaines et européennes possédaient tellement de missiles atomiques autour du désert qu'il était à prévoir qu'une attaque massive signifierait la disparition complète du désert. Mais encore là, la haine était telle qu'on préférait en terminer avec l'humanité plutôt que de laisser un ennemi occuper seul la planète Terre. Tous savaient que c'était la fin des civilisations, d'une manière ou d'une autre, car celle-ci avait atteint le niveau de non-retour. Il n'y a que le peuple qui espérait encore voir cette guerre se terminer comme toutes les autres de l'histoire humaine. On se préparait donc mentalement à s'autodétruire. Baffon et Mercier arrivèrent en pleine nuit au milieu de ce désert. Personne ne remarqua leur présence, puisqu'ils traversèrent les lignes ennemies en demeurant invisibles. Pourtant, l'odeur de l'ancien fontaine d'Enlor Péchel attira tous les rats des environs. Ces bêtes semblaient se souvenir par instinct du seul humain qui osa défendre leur race dans toute l'histoire du monde. Les rats, qui proliféraient depuis le début de la guerre et dont la population dépassait presque celle des humains, se rapprochèrent en multitude, comme si cette odeur particulière était amicale. « Ouais !» s'exclama Mercier en se retournant. « J'ai l'impression que ces bêtes se souviennent encore de celui qui les a défendus au Moyen Âge. »« Ah oui !» répondit son compagnon de route en grelottant. « Ce ne sont pas ces rats qui m'effraient, mais l'image de mon agonie. N'empêche pas ces bêtes de nous suivre, car je sais que nous serons utiles. »« Je te crois. Alors je vais leur parler un moment. » Mercier s'agenouilla et fit signe à un gros rat noir de s'approcher. Celui-ci l'examina avec une certaine méfiance naturelle, mais l'homme lui dit en le fixant dans les yeux. « L'odeur qui vous attire est celle du seigneur des rats. Je suis celui qui défendit vos ancêtres contre les exterminateurs. Les rats se nourrissent de pourriture et c'est pour cela que vous serez très utile en temps et lieu. » Mon compagnon ignore que je sais où se trouve Alba, car son odeur et celle de ses semblables m'indiquent qu'il y a un souterrain non loin d'ici. Est-ce que je me trompe? Tu recherches ces êtres qui mangent la chair de leurs victimes et qui boivent leur sang, demanda la bête. Derrière cette dune de sable là-bas, à quelques 1000 pas de Raton, se trouve un ancien puits creusé par des nomades de l'Antiquité. Avec un peu de patience, tu pourras le dégager avec l'aide de ton ami. J'ignore toutefois si tu seras assez fort pour soulever l'énorme pierre qui recouvre le sommet du puits rectangulaire. Si tu parviens à la déplacer, il te faudra ensuite briser le sceau de l'enfer. Il s'agit d'une clé emprisonnée entre deux maillons d'une chaîne noire. Dès que tu auras brisé ces mailles, tu devras jeter la clé au fond du puits pour qu'elle t'introduise dans le tunnel interdit aux hommes. Dans le cas où tu parviendras à t'y introduire, tes peines ne feront que commencer. Tous ceux qui sont parvenus à descendre là n'en sont jamais ressortis vivants. Il semblerait que la secte d'Alba va bientôt festoyer en dévorant les prêtresses d'un temple secret. Mercieux pâlit aussitôt en réalisant que la secte venait de capturer les prêtresses qui devaient s'occuper de la dépouille de Bafon après sa mission. Selon les plans établis par Primus Tazal, les prêtresses devaient attendre la mort du jeune maître pour venir rassembler ses membres et les déposer dans un coffre. Elles arrivèrent sur Terre en compagnie de Mercieux, qui les cacha dans une grotte située à quelques 50 kilomètres seulement du désert au Bahel-Kali. Le malheur voulut que le fidèle serviteur d'Alba découvre leur cachette et qu'il leur crève les yeux pour les empêcher de fuir. Le puissant Thanas était nul autre que la personnification du mal. Notons que le mot Thanas est l'anagramme parfait de Satan et que le nom Alba est celui de Baal. Un être comme Thanas avait le pouvoir de maîtriser facilement 6 pauvres prêtresses arcariennes. Il les conduisit au royaume de son maître afin de les livrer aux membres de la secte. Il serait superflu de raconter ce qu'elles eurent à souffrir avant de se faire écorcher vives sur l'autel des buveurs de sang et des mangeurs de chair. Alors que le rat s'éloigna pour parler à ses semblables, Mercieux se releva en serrant les poings contre sa poitrine. Bafon se rapprocha et lui dit en plaçant sa main sur son épaule, « Courage, nous allons vaincre cette secte et fêter la libération de l'humanité. » Les prêtresses sont entre les mains d'Alba. Tu ne peux rien me cacher, car je vois tes pensées au fur et à mesure qu'elles se forment dans ton esprit troublé. Ne sois pas si naïf en songeant à celles qui sont déjà à mes côtés. Les prêtresses, leur esprit me protège contre la tentation de refuser de mourir cette nuit. Tu as parlé à ce rat, et tu te demandes encore pourquoi j'ai dit qu'ils nous seront utiles, n'est-ce pas? Oh, les rats mangent toutes sortes de pourriture, et ce n'est sûrement pas les cadavres qui manquent sur cette planète. Pardonne mon humeur sarcastique, car j'ai si mal au fond de mon cœur en voyant la Terre se détruire, que je songe au pauvre Primus Tazal, qui a passé sa vie entière à vouloir la faire tourner dans le bon sens. Il doit être quelque part entre nous et les cieux pour pleurer discrètement en berçant sa bille comme un enfant en train de mourir. Bafon lui répondit, « Je sais cela. » Tu sais également que l'entrée de l'enfer se trouve derrière cette dune de sable là-bas. Bafon baissa les yeux avant d'opiner de la tête. Son compagnon lui fit signe de le suivre en s'épongeant le front. À partir de maintenant, c'est le moment pour toi de changer d'attitude à mon égard, lui dit l'enfant de la lumière. Dès que nous serons près de ce puits, tu devras me frapper et me bousculer, comme le ferait si bien un mauvais maître envers son esclave. Souviens-toi que la réussite de ma mission repose entièrement sur toi. Il faut que la secte soit convaincue que tu me méprises. Ouais, je le sais trop bien, répondit son compagnon. Ils arrivèrent rapidement devant le puits rectangulaire, et Mercieux prit une grande respiration avant de frapper son compagnon sans avertissement. Le pauvre jeune homme tomba à la renverse, et son bourreau pleura en voyant du sang s'écouler de la joue de son esclave. Il lui tendit la main dans le but de l'aider à le relever, mais l'autre lui dit sans tarder, « Non, frappe encore, car j'entends quelqu'un venir. » Alors le bourreau le frappa de nouveau jusqu'au moment où une main noire et froide se referma sur son poignet comme un étau. Mercieux se retourna lentement pour examiner un horrible personnage qui ressemblait étrangement à la description que les religions chrétiennes se font de Satan. La forme pensée l'immobilisa facilement avant de lui dire froidement, « Tu n'aurais jamais dû venir à cet endroit pour battre ton prisonnier. » Je vais devoir te crever les yeux. Comment oses-tu me faire des menaces? Lui répondit le missionnaire, qui ressentit en lui des énergies nouvelles pour mener sa mission avec l'aide des maîtres de l'univers. Retire immédiatement ta sale main de mon poignet, vieux bouc puant et ignorant. Si tu crois pouvoir me crever les yeux, c'est la preuve que tu n'es qu'un puceron dans un tas de fumier. Arrière, vermine! Étrangement, la voix de Mercieux devint très caverneuse et puissante. Le diable recula dès qu'il vit les yeux de cet homme prendre un aspect redoutable. « Tu es l'incarnation de Babouk, » jura alors Thanas sans hésiter. « Pas vrai, Tu es plus intelligent que je le supposais, vieille chiotte. As-tu au moins remarqué qui je frappais avant ton arrivée? Hein? Qui est-ce? Bafon, l'enfant de la lumière. C'est pas merveilleux, hein? Oui, tu es vraiment le puissant maître de notre secte. Belle hiverne, je n'ai rien à foutre d'une bande de petits morpions qui m'agacent plus qu'ils m'adorent. Hey, alors tu vas me conduire à Alba, puisque j'ai envie de lui offrir mon petit esclave pour passer ses longues nuits d'insomnie. La forme pensée se mit à rire en disant effrontément, « Tu ne sais pas encore comment t'introduire dans son royaume, toi, Bahabouk? » T'ai-je dit que je ne savais pas comment m'introduire dans son tu votre tout, stupide serviteur? Je t'ai ordonné simplement de me conduire à lui. » Comme un doute semblait encore planer dans l'esprit de Thanaos, des forces mystérieuses agirent en Mercure, dès qu'il tendit la main devant la dune de sable sous laquelle se trouvait le puits. Un vent souffla le sable d'un seul coup, au grand étonnement du diable. Puis l'homme claqua du doigt pour faire ouvrir le lourd couvercle du puits. Il cracha ensuite sur la chaîne qui se brisa avec fracas. Comme la clé demeurait étrangement en équilibre au-dessus du trou, Mercier ria un moment avant de dire à Thanaos, à demi-plié devant lui comme un bon serviteur, « Tu sais bien qu'il me faut cette clé, pauvre ver puant. Qu'attends-tu pour aller la chercher? » « Oui, tout de suite. » Thanaos tenta de la saisir, mais une force semblait l'arriver dans les airs. « Voyons, es-tu à ce point imbécile pour être incapable de te saisir de cette clé? Serre-toi de tes deux mains s'il le faut. »« Oui, c'est ce que je fais, » cria Thanaos comme un vrai désespéré. C'est donc à deux mains que la bête tenta de faire bouger cette damnée clé de l'enfer, mais lorsqu'il donna un violent coup pour la dégager, celle-ci se logea dans son abdomen. Il hurla en tentant de la retirer de son ventre devenu une plaie béante. Ce n'était pas suffisant pour détruire un être quasi immortel. Mercure s'empressa de sortir son tube de Mégator et lui enfonça celui-ci dans la gueule ouverte. La chaleur du monstre fit fondre le caisson protecteur et la lumière en jaillit pour se répandre rapidement dans son corps. Une telle énergie cristalline fit fondre non seulement Thanaos, mais également la clé qu'il avait dans ses entrailles. Après la disparition de cette forme pensée, Mercier se contenta de se gratter la tête, puisqu'il était parfaitement conscient que cette clé lui était nécessaire pour ouvrir l'énorme trappe au fond du puits. Sans elle, il devait se débrouiller pour découvrir lui-même un autre passage secret qui le conduira à Alba. Alors qu'il réfléchissait à la question, une voix se fit entendre faiblement à travers le vent du désert. « Je suis malade. Il faut faire vite avant que je meure d'autodestruction. L'humanité m'a rendu cancéreuse et bientôt je vais atteindre la limite de mes forces. Je ne sais plus faire pousser les récoltes, contrôler les climats et guérir les maladies. Il n'y a plus rien de sain dans mon ventre et dans l'air que je fais respirer aux humains. Ne me demande pas de t'obéir comme je le fis pour les grands prophètes et les saints. Pardonne-moi de ne pouvoir t'offrir mon aide afin d'accomplir ta mission. » Même avec ta foi aussi grande, ne compte pas me faire bouger les montagnes ou multiplier les pains, comme le fit le Christ en son temps. Je suis malade et je m'approche de ma phase terminale. » Bafon baissa les yeux en réalisant que la planète elle-même l'abandonnait entre les mains d'Alba. Le jeune maître ne pouvait se servir des lois de la nature pour l'aider dans sa mission sur Terre. Il dit à Mercier d'une voix attristée, la planète a été finalement vaincue par les humains. Ils l'ont vidée de ses entrailles sans tenir compte de ses limites et ont rendu ses eaux aussi infectes que le poison mortel. La Terre va s'en remettre un jour, mais cela va prendre du temps. Que faisons-nous à présent? Allons, je suis prêt à te suivre au fond du puits, mon frère. Mercier prit de nouveau une grande respiration avant de saisir son prisonnier par un bras. Il le bouscula en criant, « Allez, tu entres là-dedans, fils indigne de Bahabouk !» La crainte d'être observé par des espions d'Alba obligeait Mercier à reprendre une attitude agressive envers son compagnon. Ils descendirent une longue échelle rouillée avant de poser les pieds sur une énorme trappe munie d'une serrure. C'était l'entrée du palais d'Alba, mais sans la clé, il fallait abandonner l'idée d'entrer par là. Mercieux poussa son prisonnier dans une immense galerie qui se divisa bientôt en 10 corridors obscurs. Bafond demeurait silencieux pendant que son compagnon semblait fort bien s'orienter dans ce labyrinthe. Il caressa les murs humides en se parlant en lui-même. C'est par ici que l'air circule à travers les galeries. Il doit y avoir un autre corridor qui ne sert pas de bouche d'aération. C'est lui qui devrait être logiquement le passage secret. Notre homme parvint finalement à un couloir conduisant devant une lourde porte. Bafond comprit que son bourreau venait de découvrir une autre entrée secrète du palais. Mercier avait des sueurs froides en ouvrant lentement la porte du non-retour. En poussant son prisonnier dans l'escalier situé derrière la porte, il savait parfaitement que Bafond se rapprochait de son agonie. Après avoir traversé un court passage infesté de chauves-souris, les intrus entendirent des faibles gémissements provenant de l'autre côté du mur. C'étaient des cris étouffés par la douleur et le désespoir. Mercier plaça son oreille contre la paroi, sans pouvoir distinguer les voix qui pourraient lui être familières. Comme Bafond marchait lentement sans s'arrêter, son compagnon le rejoignit sans s'attarder dans ce corridor. Ils arrivèrent dans une salle où l'odeur de sueur, de sang et d'urine firent vomir les deux hommes. Mercier en déduisit que plusieurs prisonniers avaient séjourné là, peu de temps avant leur arrivée. Au bout de cette pièce se trouvait une fenêtre donnant sur une immense cave remplie de têtes, de jambes, de mains et de troncs humains. Bafond et son compagnon firent semblant de ne pas reconnaître les têtes fraîchement coupées des prêtresses et encore déposées sur une longue table recouverte de sang. Il ne fallait pas que Mercier verse la moindre larme de peur que quelqu'un l'espionne. Il fit donc un large sourire à son prisonnier en disant sarcastiquement « Ta jolie tête va bientôt figurer dans la collection d'Alba ». La prudence du futur bourreau fut justifiée à cet instant, car deux hommes vêtus de longues robes noires sortirent d'un passage secret pour examiner les intrus en dirigeant un étrange bâton devant eux. Ces armes, en apparence inoffensives, étaient de puissants bâtons laser, capables de brûler la chair au dernier degré. L'un des dévots de la secte s'adressa à Mercier en disant « Pourquoi dis-tu que la tête de cet homme fera partie de la collection de notre maître ?»« Tu ne vois pas que je viens de sauver votre secte en lui apportant celui que ton maître cherche à faire disparaître depuis sa naissance. Voici l'enfant que Babouk portait dans sa tête sur Arkara. Il voulait s'infiltrer dans votre royaume pour tenter de faire renier la légitimité d'Alba comme maître suprême. » Vous êtes du fou que je vais faire conduire directement dans la salle des tortures. Maudit sois-tu, tête de porc et stupide servant de mon ancien seigneur d'Atlantis. Si Alba apprend que tu m'as refusé le droit de lui offrir celui qu'il attend depuis si longtemps, c'est ta chair qu'il fera pourrir au sommet d'un pic. Si tu doutes de l'importance de mon prisonnier, appelle donc Thanos pour qu'il t'aide à réfléchir à la question. Je te préviens qu'il ne viendra pas, parce que ce bâtard l'a fait disparaître. » Les deux hommes en noir se regardèrent d'un air troublé. Mercier riait et chantait en dansant joyeusement autour de son prisonnier, avant de lui dire froidement dans les yeux, « C'est moi le plus fort, c'est moi qui ai volé ton pouvoir, fils de Babouk. » Même en ordonnant à Thanos de se présenter devant eux, les dévots ne virent personne, sinon ce fou joyeux qui mimait le geste d'une explosion pour les narguer. « Il n'y a plus de Thanos, puisqu'il est parti en fumée, que je vous dis. Pouf, plus de Thanos pour vous protéger contre ce jeune maître, » leur dit Mercier en frappant son prisonnier en pleine figure. « Si tu dis le vrai, tu serais plus puissant que ce jeune maître. » « Moi? Tu veux m'insulter ou quoi? Ce Bafond s'est agenouillé à mes pieds après avoir tenté de me détruire comme cette forme pensée. Je suis arrivé trop tard pour l'empêcher de tuer Thanos, mais juste à temps pour le maîtriser avant qu'il aille s'emparer du trône d'Alba. Vous allez me conduire devant lui, car j'ai vraiment hâte de lui offrir la vie de mon prisonnier. » Mercieux frappa de nouveau son prisonnier, ce qui eut pour effet de rassurer les deux hommes. Le pauvre réunificateur avait la figure recouverte de plaies et le cœur de son compagnon souffrait d'un mal terrible. Le plan fonctionnait car les deux gardiens conduisirent les intrus dans une salle où des centaines de puissants personnages étaient réunis autour d'une table de conférence. Mercieux s'attendait à pénétrer dans un palais, mais il vit seulement une grande pièce entourée d'écrans sur lesquels se succédaient des images des quatre coins du monde. Au centre de la salle se trouvait cette table autour de laquelle discutaient les dévots de la secte. Ces hommes et ces femmes contrôlaient la quasi-totalité de l'économie mondiale et prévoyaient même tous les conflits qui devaient arriver dans le monde, permettant de renforcer leur empire monétaire. Mais ce jour-là, la discussion était vraiment chaude, car il fallait décider du sort des millions de soldats qui attendaient le signal pour s'autodétruire. Un dignitaire chinois disait en dressant un poing dans les airs, « Je ne laisserai pas le monde se détruire sans d'abord m'assurer que les téléporteurs fonctionnent. »« Ils fonctionnent, monsieur le président, » lui répondit un homme de race blanche. « Nous serons sur la base lunaire avant la fin du monde. » Il fallait s'attendre à voir des survivants de ce conflit, mais ce n'étaient sûrement pas les gens du peuple qui pouvaient s'évader sur la Lune. Ces dignitaires étaient ennemis dans la politique, mais non dans la fuite. Ils venaient de s'associer pour rejoindre une immense base lunaire dans laquelle ils pourraient survivre pour les centaines d'années à venir. Il y avait déjà des milliers de techniciens, d'informaticiens, de militaires et leurs familles qui travaillaient sur la Lune. Ils comprirent rapidement la situation dramatique qui prévalait sur Terre, mais ne pouvaient intervenir pour empêcher le drame de la fin du monde. Par contre, ce que ces dignitaires ignoraient à cause de cette certitude de pouvoir constamment imposer leur loi sur Terre, c'est que les responsables de la base lunaire décidèrent de saboter le téléporteur au moment voulu. En deux mots, cela pouvait se traduire par « Non, on ne vous laissera pas ce plaisir de fuir une planète après l'avoir assassinée. On ne peut empêcher la fin des civilisations, mais vous n'échapperez pas au sort des terriens. » Les deux hommes en noir conduisirent les intrus devant les dignitaires et demandèrent à voir Alba. Il s'est retiré dans son harem pour jouir des présents que nous venons de lui offrir, lui répondit une vieille femme en fixant Bafon d'un air pervers. « Qui est ce beau mâle? »« C'est mon prisonnier, » s'empressa de répondre Mercieux en souriant. « Malheureusement, je pense qu'il est déjà corrompu par la radioactivité. » « C'est vraiment dommage, puisque je prévoyais te l'emprunter pour un moment. Retire-lui tout de même ses vêtements, que je puisse le voir de plus près. » « Je comprends parfaitement que vous avez du goût, chère dame, et je m'empresse donc de satisfaire votre voyeurisme en espérant que d'autres apprécieront également la beauté de mon bel esclave nu, » répondit le bourreau en arrachant la tunique de son prisonnier. « lui dit une autre femme en souriant, « moi, c'est sa jolie tête que j'aimerais collectionner, alors n'oublie pas de me la garder lorsque tu auras fait ton travail. » « Juste la tête, » lui répondit Mercieux d'un air amusé. Il suivit ensuite ses guides, pendant que le rire général des dignitaires souhaitait la bienvenue à un bourreau aussi pervers. Il fallut beaucoup de courage à Mercieux pour l'empêcher de fuir le lieu où se trouvait Alba. Des centaines d'hommes, de femmes et même d'enfants étaient pendus nus par les pieds, pendant que des dévots de la secte s'amusaient à les violenter avec toutes sortes d'instruments de torture. On leur introduisait également des tubes dans les veines pour sucer lentement leur sang. Dès que des victimes succombaient de faiblesse, on débutait le travail de boucherie, car il fallait bien nourrir ces dignitaires, puisque plus rien ne poussait sur la planète pour engraisser des animaux. Alors, les humains encore en santé devaient les remplacer. L'arrivée de Mercieux surprit vivement le maître de la secte. Il se leva lentement, en examinant avec intérêt ce jeune homme au regard d'une douceur trop pure pour être ordinaire. Il reconnut aussitôt le frêle réunificateur maintenu par le chignon du cou. Il faut dire que Bafon était déjà fort mal en point, ce qui rassura alors Alba. Lorsque l'un des gardiens lui dit que quelqu'un désirait lui offrir la vie de ce jeune maître, le divisionnaire reconnut Mercure et douta aussitôt de ses bonnes intentions. « Que fait donc mon ancien vigneron dans cette salle ? » cria-t-il d'une voix colérique. « Vous venez d'introduire un missionnaire carien dans mon royaume, bande d'imbéciles. » « Calme-toi et écoute ce que je vais te dire avant de pourrir de vieillesse petite vermine prétentieuse, » lui cria aussitôt Mercure pour lui prouver qu'il n'avait pas peur de lui. « Regarde-moi et dis-moi lequel de nous deux est vraiment le maître de l'élixir de vie. Regardez-moi tous et comparez deux hommes qui vécurent à la même époque dans les vergers arcariens. Je suis Mercure que ce maudit idiot n'a jamais été en mesure d'apprécier à sa juste valeur. » « Aujourd'hui, les choses ont bien changé, n'est-ce pas, Alba? Je suis encore jeune, et ce n'est pas toi qui m'auras finalement appris mes origines particulières. Vas-tu enfin réaliser que je traîne à mes pieds le plus grand maître après le cœur royal et Babouk? Je dois sûrement posséder un pouvoir qui fait que même Bafon doit s'incliner devant moi. » Alors, crie encore une autre fois ton mépris à mon égard, et je veillerai à t'en faire payer un prix tellement humiliant que tu regretteras pour l'éternité de n'avoir pas su m'apprécier à temps. Mercure était superbe dans son jeu. Il plaça sa main sur la tête de son prisonnier en lui disant froidement, « Qu'attends-tu pour t'agenouiller devant ton nouveau maître, puisque tu sais à présent que Mercure n'était pas ce vulgaire vigneron imbécile, mais l'égal des Olympus. » Est-ce possible, dit Alba en éclipsant un sourire d'admiration. Le fils de Babouk s'agenouille à tes pieds. Babouk et le cœur royal trouvent leur origine dans le monde primordial, tout comme moi, mon pauvre aveugle. J'ai découvert cela grâce au stupide grand maître Lemu. Lorsque toi et les autres fautifs avez quitté Arcara pour vous rendre en Atlantide, je me suis retrouvé dans l'intemporel, où Lemu n'a pas eu le choix de me cacher davantage mes origines. Je suis un immortel, et une simple goutte de mon sang était suffisante pour fabriquer cet élixir que tu buvais avec tant d'empressement, mon pauvre naïf. Non seulement je t'ai rendu quasi immortel, mais je t'ai permis, sans le savoir, de pénétrer dans le monde originel pour épuiser tes connaissances. Je suis convaincu que tu savais tout cela lorsque tu étais mon patron. Mais à présent que je le sais également, je plains l'être qui voudrait encore m'exploiter sans que j'y trouve également mon profit. Les Arcariens me rejettent depuis que j'ai demandé à reprendre ma place parmi les puissants maîtres comme Babouk le cœur royal et l'enfant Manuel. Je n'acceptais pas cette trilogie, car avec moi, je pense que cela fait quatre membres de ce monde originel. Les grands maîtres n'ont pas voulu m'inclure dans leurs livres au même niveau que le cœur royal. Ils disaient que c'était ce petit bâtard de Bafon qui devait devenir le quatrième membre de la grande famille des Olympus. Ouais, je n'étais pas pour me laisser voler ma place. Lorsque ce vermisseau est venu ici dans l'intention de convaincre ta secte qu'il était l'héritier de Babouk, je l'ai saisi par le chignon du cou avant qu'il vienne me ravir ma place sur terre. On ne veut plus de moi sur Arcara, et donc, c'est ici que je vais m'établir. » Vraiment troublé, Alba s'empressa de lui dire, « Un instant, tu sembles ignorer que la terre est mon royaume. Tu crois cela? Es-tu certain que tu vivras encore des millions d'années? » Mercure dansa devant lui pour le narguer. Il fit même plusieurs pirouettes devant les autres dévots. « À ton tour maintenant, non? » « Sois maudit, vigneron effronté, raja Alba sans toutefois chercher à le faire arrêter. » À vrai dire, l'ancien seigneur d'Atlantis ressemblait beaucoup plus à un cadavre en décomposition qu'à un humain. « Maudis toi-même ta vieillesse, puisque tu ne peux rien faire de plus. C'est moi qui possède l'essence éternelle dans mes veines. Si tu veux, vide mon sang, si tu crois pouvoir ensuite réinventer l'élixir que je t'offrais sur Arcara. Puis, il faudrait d'abord me saisir et me soumettre, n'est-ce pas? Thanos a été détruit par Bafon, et moi, j'ai soumis ensuite Bafon. Que veux-tu que je fasse de ton esclave? Pourquoi me l'amener au lieu de le tuer toi-même? » lui demanda Alba. Ouais, tu es très intelligent, Alba. Tu as deviné que je ne voulais pas prendre le risque d'être le seul à porter le poids de sa mort, n'est-ce pas? Donc, si tu es prêt à le saigner et à le dévorer en ma compagnie, on pourrait ensuite s'entendre pour se diviser la terre. Tu as peur de te souiller seul du sang de ce maître, c'est ça? Mercier lui répondit. Disons que je n'aimerais pas être le seul à prendre le contrôle de la terre. Je suis ambitieux, mais j'aime la compagnie de mes semblables. Si je tue seul mon rival et le tien, je n'aurai pas d'excuse pour te faire confiance. Confiance? Mais si, voyons. Crois-tu que je veux me mettre à ton service comme dans le bon vieux temps? N'y compte surtout pas, puisque rien ne m'y oblige. Par contre, il se trouve que ce petit puceron de Bas-Fonds doit disparaître de ma vie et de la tienne. Donc j'ai pensé que nous pourrions nous entendre pour le faire périr ensemble. Ensuite, je te laisserai la moitié de cette planète et je gouvernerai l'autre partie. On appelle cela une association. Comme le jeune maître se releva sans l'autorisation de son bourreau, Mercier s'empressa de se saisir d'une chaise pour la briser sur son dos. Le pauvre prisonnier tomba sur le sol en gémissant. « Tu parles d'un effronté, » dit Mercier à son futur associé. « M'avais-tu entendu lui demander de se relever? » J'ignorais que mon ancien vigneron était si violent de nature. Cela me plaît beaucoup. Dis plutôt que Mercier n'est plus cette tendre nature qu'on pouvait manipuler avec des sentiments. Je suis un maître qui veut se faire reconnaître, même si je dois pour cela détruire tout sur mon passage. Donc, je ne te demande pas la charité en venant te voir avec notre ennemi commun. Si tu refuses de me seconder pour le faire disparaître, je ne saurai plus ensuite si je dois considérer Alba comme un associé du pouvoir ou comme un simple ancien patron. Tu veux la moitié de mon royaume et tu crois que je vais accepter de te le remettre? Écoute, jusqu'à présent tu étais le seul maître de la terre et également le seul à pouvoir jouir d'un tel pouvoir. Mais tu étais vieux et incapable d'en profiter comme un jeune sultan et son harem. Je vais t'offrir la jeunesse éternelle contre la moitié de ton royaume. Tu es devenu très gourmand, dit Alba. Alors le maître de la secte examinait son ancien vigneron d'un air déconcerté. Le gémissement du coup des condamnés cessa subitement. Les sadiques les frappaient à coups de bâton dans les flancs pour attiser leur douleur, mais ceux-ci demeuraient insensibles à la souffrance. Toutefois, des sueurs de sang se répandirent sur le visage crispé de Bas-Fonds. Son compagnon devina aussitôt qu'il venait de prendre sur lui la douleur de ces malheureux. Le jeune maître grimaçait en se tortillant sur le plancher. À ce moment-là, Mercier réalisa qu'il était désormais impossible pour le jeune réunificateur de souffrir davantage dans son corps, car son âme portait déjà les stigmates de tous ses corps mutilés, même le sien. Chaque souffrance physique fut prise en charge par l'amour du jeune maître. Il s'était déjà détaché de son corps grâce à sa capacité d'entrer en transe. Son bourreau sentit même la main invisible et bienveillante de son compagnon se poser sur son épaule pour lui faire comprendre qu'il pouvait utiliser à présent ce corps qui se maintenait encore en vie uniquement pour qu'il lui serve d'instrument. Ainsi, Bas-Fonds assistait en témoin au dialogue entre Alba et Mercier. Il ne souffrait plus, mais continuait tout de même à maintenir son corps actif pour tromper la vigilance d'Alba. « Regarde ce que mon prisonnier a fait de tes chanteurs et chanteuses. Ils ne gémissent plus, ne crient plus, ils ne supplient plus, même plus tes dévots de les achever, » cria Mercier en frappant le jeune maître à coups de pied. « Je te dis qu'il faut s'en débarrasser au plus vite, même s'il semble avoir perdu la parole. » Alba examina ses victimes d'un air alarmiste. « Il a pris sur lui les souffrances de ma chorale de damner ma parole. » « Ouais, si tu le laisses faire, il va finir par convaincre tes dévots de croire à l'amour et la charité, » lui répondit Mercier en dansant joyeusement autour de son prisonnier. « Tu as raison. Il ne faudrait pas qu'il corrompe mes fidèles, » s'exclama Alba en réalisant que son ancien vigneron était devenu aussi malade que lui du pouvoir. « Enfin un allié pour une gloire qui ne pourrait s'obtenir par de simples promesses, » lui dit son associé. « D'accord, tu gouverneras la moitié de la terre et je me contenterai de l'autre. Mieux vaut moins de gloire et la jeunesse qu'un vaste royaume que je ne peux plus visiter à cause de mes vieux os. » « Ne t'en fais pas, Alba. Notre royaume sera bientôt stérile pour un certain temps. Ensuite, la nature va refaire sa beauté, et les hommes voudront encore le peupler comme des brebis qui ont besoin de bergers. Crois-moi, nous veillerons à nous protéger mutuellement contre les sages qui voudront s'attaquer à Mercéure et Alba. Et à quand le festin? Maintenant, mon associé, fais dresser la table. » Alba donna des ordres, et la table fut dressée rapidement. La pauvre victime innocente fut étendue sur celle-ci, pendant que Mercéure et Alba humèrent un vin blanc vraiment exquis, dès qu'il fut apporté par un serviteur. Il sent la rosée. « Crois-tu que du rouge serait mieux pour notre repas ?» demanda subtilement le missionnaire, qui songeait évidemment à la couleur du sang de Bafon. « Je regrette, mais je n'ai plus de rouge depuis des années. Cela me donne des brûlements d'estomac. Que veux-tu? » »« Ah, je vois. Allons-y donc pour du blanc, alors. » Mercier se demandait sérieusement si Alba n'avait pas sa propre vision des événements, en le forçant à boire uniquement du vin blanc. En effet, voyait-il déjà le piège qui lui était tendu, en se disant qu'il ne risquait rien en buvant uniquement du vin blanc? Mercier ne pouvait le savoir, et devait jouer son rôle en tentant d'oublier cette probabilité. Le festin débuta, et les deux monstres se prirent des morceaux de chair sur le torse du jeune maître, qui gémissait à chaque fois. Ils burent énormément, ce qui permit à Mercier de dissimuler l'une des bouteilles vides entre ses jambes sans se faire voir. Alba était déjà ivre, et s'amusait à piquer le visage de Bafon en parlant à son associé, qui lui répondait en piquant une cuisse, comme on le ferait pour un poulet. Il finit tout de même par glisser l'une des mains du jeune réunificateur entre ses jambes et coupa discrètement le bout d'un doigt avant de l'introduire dans la bouteille. Alba lui demanda aussitôt ce que faisait le bras en dehors de la table. « Ah, je pense que tu es jaloux, mon cher Alba. Tu ne vois pas que j'ai envie de me faire masser? » « Non. » Tu ne veux pas insinuer que sa main te... Mais si, sans son consentement, évidemment. Buvons, mon associé, à notre alliance, car tu m'as vraiment impressionné depuis notre retrouvaille. Mercier vit Alba verser d'autres vins dans son verre et sentit le sang de son compagnon s'écouler sur son poignet. La bouteille était pleine à présent. Au même instant, Bafon cessa de respirer. « Oh, je pense qu'il vient de mourir, » dit Mercier en souriant à Alba. « Raison de plus pour boire à notre libération et à notre association, » lui répondit celui-ci. « En parlant d'association, il faudrait peut-être que tu apprennes à partager avec moi tes meilleurs vins. Tantôt, j'ai surpris l'un de tes serviteurs cacher une bouteille sous la table. J'ai ensuite compris que tu désirais sans doute la garder pour sceller notre amitié, car j'avoue n'avoir encore jamais senti un vin aussi mielleux de toute mon existence. Fais voir cette bouteille, voyons. Voilà, se contenta de répondre son compagnon en saisissant la bouteille entre ses jambes. Un large sourire vint soulager le cœur de Messire en voyant Alba humer avec délice l'arôme d'un véritable vin blanc. Le miracle s'était tout de même accompli. « Tu as raison. Ils sont drôlement bons, » lui dit Alba d'un air étonné. « Je pense que c'est un... voyons, c'est plutôt un... ou peut-être même un... »« Ah, il faut le deviner avant moi, mon cher associé. » Ne pouvant admettre son ignorance, Alba s'amusa à le déguster. L'effet ne fut pas immédiat, puisque le divisionnaire se lécha les lèvres d'un air satisfait. Il vida ensuite son verre sans hésiter. Il sentit ensuite une douleur dans la gorge, puis se plia en deux, lorsque son ventre le brûla comme le feu de l'enfer. « C'est, oui, Alba, c'est du poison. Traître, non, libérateur. » Le maître de la secte chercha à se relever, mais le sang de Bafon le transforma en serpent. Il fut saisi rapidement par Mercure, pendant que les autres dévots fuyaient la salle, en espérant échapper au même sort. Ils passèrent en trombe devant l'ancienne salle de conférence des dignitaires, puisque ceux-ci tentèrent de se faire téléporter peu de temps avant le banquet. Les fugitifs entendirent alors un cri étrange provenant de la bouche de Mercure, et des milliers de rats envahirent les souterrains. Les dévots se firent attaquer sauvagement par ces bêtes qui ne laissèrent aucun survivant. Mercure pleurait de soulagement en tenant fermement le serpent maudit. Tout à coup, un silence de mort entoura la terre, laissant dans la noirceur absolue les armées du désert. Aucun son ne put sortir de la bouche des guerriers et personne ne fut en mesure d'accomplir le moindre mouvement. Que s'était-il passé depuis la mort de Bafon? On avait finalement déclenché cette attaque massive et un immense nuage s'éleva autour de la terre. Les habitants de la Lune pleurèrent en voyant le gros champignon se disperser dans l'espace. Il y avait tout de même quelque chose qui planait lentement au-dessus du désert en laissant voir son immense spirale lumineuse. Le vaisseau spatial se posa lentement près de l'ancienne base secrète de la secte d'Alba. Les alentours retombèrent dans l'obscurité la plus complète, et les guerriers furent incapables de bouger. Une force les maintenait dans une mort provisoire. Le navire céleste était celui du maître du destin. On aurait dit une immense couronne royale ornée de 7 boules de cristal. Des croucrounins descendirent du vaisseau en traînant un coffre d'or d'une rare beauté. C'était pour y déposer la dépouille de l'enfant de la lumière. Les prêtresses fantômes suivaient derrière, puisqu'elles tenaient à faire acte de présence au cours de ce rituel mortuaire. Primus Tazal apparut près du vaisseau et, pour la première fois de sa vie, il abandonna sa jolie baie bleue au sable du désert. Elle se fit balayer par les vents et le sable pendant que le singe suivait le cortège. Une fois dans les souterrains, celui-ci s'arrêta devant Mercure, qui tenait fermement un serpent en disant « Voici la plaie du monde que j'ai vécue grâce au sang de Bafon. Même si la mort du réunificateur libère les terriens de la secte noire, sachez tous que je me considère tout de même pour l'assassin de mon frère. » Il faut avouer que Mercure était rudement secoué par son expérience, et passé de la joie d'avoir accompli sa mission à la lourde peine d'avoir tout de même torturé le maître de la bonté et de l'amour. Tardat s'approcha de lui et lui tendit ses petits bras, dans lesquels le missionnaire s'y jeta pour pleurer longuement. Plutus Jeude et un autre confrère croucounin lui retirèrent lentement le serpent des mains. Mercure dit Tardat en lui souriant. « Tous les habitants t'attendent pour fêter la libération de l'humanité. Crois-moi, il existe encore plusieurs tribus sur cette planète qui survivront à cette fin des civilisations. D'autres terriens se trouvent dans une grande base lunaire. Tu vois, ils pourront revenir un jour sans craindre les malices d'Alba et de sa secte. Cela ne veut pas dire que la Terre deviendra un paradis, sauf que si les hommes veulent vivre en paix, Alba ne pourra plus se servir de l'odeur de Barbouk. Bientôt, une nouvelle terre existera dans l'autre dimension. Elle sera éclairée par l'enfant de la lumière. « Je sais cela, » lui répondit Mercure, « mais j'ai si mal que je n'ose plus fermer les yeux, puisque je vois encore celui que j'ai frappé, humilié, déchiré et vidé de son sang. Laisse-moi transporter le coffre jusqu'au navire. » « Oui, je comprends que tu viens de vivre la plus dure épreuve d'amour qui soit. Par amour des terriens, tu as accepté de sacrifier ton frère. Par amour de ton frère, tu as accepté de le seconder dans sa mission salvatrice. » Mercure traîna le coffre sur le sable et dit à son ami Tardat, j'ai envie d'écrire ce que je ressens, mais tu sais bien que je ne vaux pas grand-chose pour l'écriture. Je vais écrire ce que tu ressens au fond du cœur, lui répondit son ami. Mercier ferma les yeux et des larmes s'écoulèrent abondamment pendant qu'il pondit ces vers qui deviendraient célèbres sur Arcara. J'ai joué le rôle de celui qui torture en souhaitant être celui qui endure. Car en frappant un être si pur, valais-je mieux qu'un bourreau au cœur dur. J'ai joué mon rôle de missionnaire, comme d'autres vivent en militaire. J'étais tout de même un tortionnaire qui fit le mal en fonctionnaire. Ne me demandez jamais plus d'obéir à la violence, au nom d'un salut, d'une mission ou d'une délivrance, car celui qui refuse de prendre le sang de l'innocence me vaut mille fois en vertu et en conscience. Ne dites jamais que Mercier est bon comme le miel, ou amer comme ce vin au goût de fiel, car j'ai mangé la chair d'une brebis venue du ciel, et vidé son sang comme un infidèle. Ami, n'obligez plus un maître à devoir s'offrir sur l'autel, dans le sang, les plaintes et les tourments cruels. N'attendez plus jusqu'à la fin de votre bêtise mortelle pour apprendre à développer l'amour fraternel. Ne laissez plus l'inconscience s'installer au fond de votre cœur, car la moindre parcelle d'intolérance envers vos frères et sœurs y prendra racine pour devenir la fleur haineuse de vos malheurs, celle-là même qui nourrit la violence et toutes les peurs. Méfiez-vous de votre bonne humeur naturelle. Ce n'est pas cela qui vous rendra fraternel, car le saint homme et le grand criminel naissent également d'une manière naturelle. Arcarien, ne deviens jamais ce peuple enraciné dans les lois, car un jour celles-ci bafoueront tous tes droits. Sème plutôt le bon grain d'amitié, le sourire et la joie, si tu veux voir de belles récoltes pousser partout sur Arcara. Le missionnaire vit alors la jolie Osis venir à sa rencontre, en tenant une petite boîte argentée dans ses mains. Elle attendit qu'il dépose le cercueil dans le vaisseau avant de lui présenter ce petit coffret au nom des prêtresses arcariennes. « Voici la future demeure du divisionnaire, lui dit-elle, en fixant le serpent qui se tortillait violemment dans les mains de Prithesjud. Il s'énerve, dit Fardat, en aidant l'autre croucrouné à le maintenir solidement. On ne pourrait l'enfermer dans sa prison avant de lui faire cracher tout son venin. Et il lui faudra au moins encore 1000 ans avant qu'il puisse de nouveau en sécréter. Au temple de l'accueil, dit alors Osis, en souriant à Mercier, j'ai reçu la visite de plusieurs grands maîtres du mont Belapar. Ils firent apparaître un grand bassin en me demandant d'y tremper les pieds dans des cristaux d'une rare beauté. Ensuite, le grand maître Adish m'a dit ainsi, Osis, c'est toi qui devras écraser la tête du divisionnaire afin de lui faire cracher tout son venin. Celui-ci ne pourra t'empoisonner puisque nous venons de cristalliser tes pieds avec notre énergie immortelle. Mercier opina de larges signes de tête avant de saisir le serpent à deux mains. Il l'immobilisa sur le sable et Osis lui fit cracher son venin. Puis le divisionnaire fut enfermé dans le coffret, qui possédait 5 serrures représentant les portes de l'orgueil, de l'envie, du mensonge, du pouvoir et de l'intolérance. Fardat dit ensuite d'un air soulagé, « Alba n'existe plus pour diviser notre peuple et ceux des autres planètes de l'univers. Nous jetterons la boîte dans l'espace lorsque nous quitterons la Terre. Par contre, je dois avouer qu'on ne peut se débarrasser définitivement d'un être comme Alba. » Il est devenu une ombre comme celle de Babouk. Une ombre ne peut faire aucun dommage, mais elle suit tout de même le marcheur. Je veux dire par cela que si les hommes forgent une clé pour chacun des scellés de cette boîte, ils finiront par créer une nouvelle peau au serpent divisionnaire. L'instinct du mal sommeillera toujours au fond des cœurs des êtres, comme une clé capable de libérer Alba de sa boîte. Cela risque d'arriver lorsque le peuple aura oublié le poids de la souffrance des civilisations qui l'auront précédé. Il ne faut surtout pas que la nouvelle humanité oublie qu'elle possède ce pouvoir de transformer toute chose pour son bonheur ou son malheur. Alba est vaincu et le corps de Bafon est ramené sur Arcara. Mercure est encore ébranlé par la dureté de sa mission, sauf qu'il sait présent que son frère vient de mettre un terme au règne de celui qui profita de son immortalité physique pour entretenir la haine au cours des âges. Le peuple attend à l'extérieur de la tour royale la résurrection de l'enfant de la lumière. La dépouille est étendue sur la grande table en émeraude, autour de laquelle sont rassemblés les trois autres Olympus. Le maître du destin place ses mains au-dessus du corps mutilé et lui redonne son apparence d'antan, alors que Mercure, ou encore Perlin, pose affectueusement les siennes sur le front gelé, en examinant le cœur royal traverser le défunt. Lorsque la boule de feu touche le cœur de Bafon, celui-ci se remet à battre, comme par enchantement. L'enfant de la lumière ouvre lentement les yeux et sourit à ses frères, qui voient alors le puissant maître de l'amour se métamorphoser en une lumière d'une rare splendeur. Elle brille, tel le soleil, sans toutefois aveugler le peuple, lorsqu'elle traverse lentement le temple pour s'élever ensuite vers le ciel. Les témoins fascinés par ce phénomène savent alors que Bafon vient de ressusciter. Des anciens fautifs n'hésitent pas à dire que cette lumière est le Christ, alors que d'autres préfèrent utiliser des noms associés aux différentes religions qui sont pratiquées sur Terre. Bientôt, le cœur lumineux se fixe au firmament avant de prendre la forme cristalline de l'ancien royaume des Luminaticiens. Ainsi, Bafon désire devenir la nouvelle patrie de ce peuple qui perdit sa planète en tentant de vaincre Babouk. Les bulles heureuses n'auront plus que quelques millions de kilomètres à parcourir lorsqu'ils voudront venir tenir compagnie aux enfants, qui seraient bien tristes de perdre leur joli ballon du bonheur. Des milliers de luminaticiens viennent de retrouver un véritable paradis tout en lumière et gouverné par le maître de l'amour. Ils vont s'imbiber de connaissances encore plus grandioses encore que les sciences, depuis qu'ils ont compris que la formule parfaite du bonheur se trouve finalement en soi et autour de soi. Le monde va changer depuis que le maître de l'amour vient de s'établir en monarque dans cette dimension où il sera visible à tout jamais. C'est le début d'une phase extraordinaire dans l'évolution des entités à travers l'univers, puisque le sombre tableau d'un monde gouverné par la noirceur vient de céder sa place à celui de la lumière. Même les victimes du vaste conflit nucléaire sur Terre vont renaître sur une planète identique à la leur, comme cela fut le cas pour les Arcariens. Tout près du puissant Bafon qui brille tel le soleil, apparaît la copie conforme de la jolie baie bleue. Le maître du destin en a voulu ainsi pour permettre aux entités de réfléchir aux conséquences de leur inconscience, puisque la quasi-totalité des habitants périrent au cours du dernier conflit mondial. Il n'existe plus de civilisation sur cette planète, à peine quelques tribus ayant miraculeusement échappé aux radiations produites par les bombes atomiques. Par contre, des centaines de survivants d'une colonie lunaire attendent patiemment que le taux de radiation disparaisse suffisamment pour revenir sur Terre. Manuel refuse de laisser porter la responsabilité du désastre mondial uniquement sur le dos des dirigeants de l'époque. S'ils sont devenus aussi puissants et surtout insatiables dans leur appétit du pouvoir, c'est également à cause des innombrables profiteurs qui approuvèrent un système économique uniquement axé sur l'exploitation de l'homme comme simple produit et service. La déshumanisation fit le reste.